L'écrivain mène l'enquête, un podcast de Hervé Michel.
L'énigme meurtrière des sœurs Papin.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Hervé Michel qui vous parle pour un nouveau podcast de la série L'écrivain mène l'enquête. L'affaire qui nous occupe aujourd'hui est une affaire extrêmement simple en apparence, puisque la police a immédiatement pu identifier la ou plutôt les coupables qui n'ont même pas cherché à nier leur crime. Mais si je vous dis que l'affaire est simple en apparence, c'est parce qu'aujourd'hui encore, le mobile comme l'élément déclencheur et même la personnalité des criminels reste un mystère. À l'époque, tous ces éléments, mais également la soudaineté et la violence du crime, ont enflammé l'opinion publique qui se passionna à travers la presse, notamment pour le cas des sœurs Papin. Alors cette histoire se passe au Mans. En 1926, le Mans est une ville industrielle en plein essor, marquée par les transformations liées à l'industrialisation et à l'urbanisation. D'un point de vue social, on voit se creuser un véritable fossé entre les différentes classes. Les tensions sont fréquentes. Et c'est dans ce contexte que va se jouer ce drame. Léonie Lancelin, épouse d'un administrateur des mutuelles du Mans, René Lancelin, recherche du personnel de maison. Le couple est aisé et vit au 6 de la rue Bruyère, dans un quartier chic où fleurissent les maisons de maître. Une jeune femme se présente pour le poste de cuisinière. Elle se nomme Christine Papin. Elle a une vingtaine d'années, le front haut, le nez épais, le sourcil broussailleux. Après quelques jours d'essai, il s'avère qu'elle fait parfaitement l'affaire et Madame Lancelin l'embauche. Mais à Madame Lancelin, il lui faut également une femme de chambre. Et ça tombe bien puisque Léa, la jeune sœur de Christine, cherche aussi du travail. Elle est également immédiatement embauchée. Les sœurs Papin ont été élevées dans une famille dysfonctionnelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Leur père, Gustave, est alcoolique et leur mère, Clémence, ne manifeste pas le moindre sens maternel et trompe son mari à tout va. Le couple, qui a eu trois enfants, finit par se séparer lorsque Clémence apprend que Gustave a abusé de leur fille aînée, Emilia. Mais, loin de la défendre, Clémence place Emilia en maison de correction, comme si elle était coupable. La jeune femme entrera ensuite dans les ordres. Quant à Christine et Léa, eh bien leur mère, incapable de s'en occuper, les place de famille d'accueil en famille d'accueil au gré de ses caprices. Cette errance durera jusqu'à leur embauche par les Lancelins. La discipline chez les Lancelin est draconienne. Les deux femmes ne doivent s'adresser qu'à leur maître, c'est-à-dire Monsieur et Madame Lancelin, ainsi qu'à leur fille Geneviève, 21 ans. Elles n'ont pas le droit de parler aux invités. Ce n'est pas un problème, car les deux femmes ne sont de toute manière pas très loquaces, et puis côté salaire, il faut dire que les Lancelin ne sont pas avares. Ils payent bien, très bien même, sans compter que Christine et Léa sont nourries, logées et blanchies. Elles parviennent rapidement à mettre une jolie somme de côté, car en plus elles ne sont pas dépensières. Elles ne sortent jamais, ne fréquentent pas les garçons. Pour les Lancelin, ce sont les domestiques parfaites, et eux sont des patrons parfaits pour les jeunes femmes. Une fois pourtant, un événement gênant se produit. Léa a laissé traîner un simple bout de papier sur le sol. Ce fait banal déclenche chez Madame Lancelin une colère disproportionnée. Elle attrape la domestique, la rudoie, l'oblige à se mettre à genoux pour ramasser le bout de papier. Interloquée par cette réaction, pour le moins inhabituelle, Léa ne dit rien sur l'instant, mais le soir venu, se plaint à sa sœur. Elle n'a pas intérêt à recommencer, sinon... La phrase demeure en suspens, comme un nuage noir au-dessus de la maison de la rue Bruyère. Et puis le temps passe et l'incident est oublié. Le calme revient dans la maison et les relations entre maître et domestique s'améliorent même. Madame Lancelin, qui a pris les deux sœurs en sympathie et peut-être même en affection, va voir leur mère qui ponctionne régulièrement une partie du salaire de ses filles pour subvenir à ses besoins, et lui demande de les laisser tranquilles à présent. Mais, quelques années plus tard, cette situation un peu idyllique se gâte. En effet, René Lancelin est inculpé dans une affaire financière. La situation se dégrade. Le drame survient le jeudi 2 février 1933 à cause d'un fer à repasser défectueux. Ce soir-là, Léa s'est fait une nouvelle fois réprimander pour un motif futile. Mais à 5 ans d'intervalle, on ne peut pas dire que la jeune femme soit vraiment martyrisée par sa patronne. Sauf que, quelques heures plus tard, un autre incident banal va mettre le feu aux poudres. Christine repasse le linge lorsque le fer à repasser électrique provoque un court-circuit. Les plans sautent et toute la maison se retrouve dans le noir. Madame Lancelin et sa fille qui ont passé l'après-midi dehors rentrent à ce moment précis. Christine a beau expliquer à sa patronne qu'elle n'y est pour rien. Madame Lancelin a un nouveau geste d'humeur. Le ton monte, une bagarre éclate entre la mère, la fille et la bonne. Christine, folle de rage, prend rapidement le dessus et roue de coups les deux femmes. Léa s'en mêle et, sur l'ordre de sa sœur, arrache un œil à Madame Lancelin. On ne peut plus revenir en arrière. Christine, à son tour, arrache un œil à Geneviève, la fille, et le lance dans l'escalier. Léa, galvanisée, plante ses doigts dans l'œil restant de Madame Lancelin et l'arrache avec violence, puis elle attrape un couteau et un marteau avant de s'acharner, avec l'aide de sa sœur, sur les deux malheureuses qui meurent, bien évidemment, sous leur coup. La scène est effroyable. Il y a du sang partout. C'est un véritable carnage. Puis la tension retombe chez les deux tueuses qui vont simplement prendre une douche et se mettre au lit ensemble pour attendre la suite des événements. Vers 20h, lorsque René Lancelin rentre chez lui, il trouve la porte close. Un étrange pressentiment l'étreint. Il tente d'entrer mais n'y parvient pas. Il appelle, cogne, personne ne vient lui ouvrir. L'homme se décide alors à prévenir la police. Deux agents sont envoyés sur place et forcent la porte. Le spectacle qu'ils découvrent est tout simplement terrifiant. Les deux femmes gisent dans les escaliers, les orbites vides, le visage et le corps tailladés et meurtris. Les policiers frappent à la porte des sœurs Papin, peut-être ont-elles subi le même sort, mais la chambre des domestiques est fermée de l'intérieur et personne ne répond. Il faut faire venir un serrurier. Lorsque l'artisan débloque la serrure, les agents se précipitent et découvrent les deux sœurs enlacées dans le même lit. Immédiatement, elles s'accusent des meurtres, mais ne donnent aucune explication sur leurs gestes. Très vite, un procès retentissant va débuter et enflammer l'opinion publique. Certains réclament la peine de mort, tandis que d'autres voient dans ce geste l'exaspération des classes laborieuses asservies à la bourgeoisie. Mais le sentiment qui prédomine dans cette affaire, c'est l'incompréhension. Pourquoi les deux sœurs se sont-elles acharnées sur leur patronne? De leur propre aveu, elles n'avaient absolument rien à leur reprocher. Comme nous l'avons vu, elles étaient bien payées et au moment des faits, elles avaient suffisamment d'économies même pour partir s'installer ailleurs. Elles étaient bien logées, bien nourries et, mis à part les deux incidents que nous avons relatés, elles étaient bien traitées. Non, il n'y a décidément rien de logique, rien de rationnel dans le crime barbare qu'elles ont commis. Alors quoi? La folie? Bien sûr que la piste est étudiée. C'eût été intéressant de comprendre, mais voilà, le procès est bâclé, les experts pas très motivés pour tenter de faire la lumière sur la personnalité des sœurs Papin. Pas assez intéressante? Pourtant l'affaire passionne et les médias se pressent au procès, ce procès qui sera d'ailleurs très vite expédié. Une journée en tout et pour tout. C'est un peu juste pour comprendre et juger. Mais alors que va débuter le procès, un coup de théâtre vient encore alimenter l'incompréhension de l'affaire. Christine décide d'assumer seule le poids du crime. Elle affirme que sa sœur était sous son influence et que c'est elle qui a tout fait. L'instruction commence le 28 septembre 1933. Le palais de justice est plein à craquer. La défense a demandé une analyse psychiatrique plus poussée, mais les magistrats ne suivent pas et pour les jurés, l'affaire est entendue. Il s'agit d'un crime commis sous l'emprise de la colère, une colère qui s'est muée en fureur, voilà tout. Pour eux, les deux sœurs sont totalement saines d'esprit et aptes à subir leur peine. Le 29 septembre, le lendemain donc, le verdict tombe après seulement 40 minutes de délibération. Christine est condamnée à mort et Léa à 10 ans de travaux forcés. Christine sera graciée par le président Lebrun l'année suivante et sa peine sera commuée en travaux forcés à perpétuité. Elle meurt dans un asile d'aliénés le 18 mai 1937 à l'âge de 32 ans. Quant à Léa, eh bien, elle est libérée en 1943 et meurt le 24 juillet 2001 à l'âge de 89 ans. Et voilà comment se termine l'histoire des sœurs Papin, deux jeunes femmes sans histoire qui, en une fraction de seconde, ont commis des actes d'une barbarie inimaginable. Le doute n'est pas permis sur la culpabilité des deux femmes et la gravité des actes ne fait aucun doute. Reste la compréhension du mobile et de l'élément déclencheur qui a mis le feu aux poudres, provoquant la mort de Madame Lancelin et de sa fille, une mort véritablement atroce. Et voilà comment s'achève notre histoire. C'était Hervé Michel pour le podcast L'écrivain mène l'enquête. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle énigme criminelle.